Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Oh, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Justine au micro et aujourd'hui, je reçois Olivia, alias le petit reporter. Olivia est partie depuis 2021 sur les routes d'Afrique avec Charlie et leur Land Rover Defender nommé Joe pour une durée indéterminée et j'ai hâte qu'elle nous raconte ses aventures avec déjà plus de 30 000 km parcourus. Salut Olivia, comment tu vas ?
Salut, salut, ça va, merci et toi ?
Ouais, ça va super, écoute, j'ai hâte que tu nous racontes toutes tes aventures. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Ouais, bah du coup, je m'appelle Olivia, j'ai 28 ans et je suis reporter nomade, si on peut dire ça. En gros, je suis photographe et vidéaste à mon compte et mon travail, c'est de partir voyager dans différents pays du monde, principalement sur du long terme, pour partager ensuite tout ça en images avec ma communauté, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog, sous le pseudo du coup, Le Petit Reporter.
Donc, on peut suivre tes aventures en tapant Le Petit Reporter dans n'importe quelle barre de recherche, je pense.
Ouais, c'est ça.
Bon, super. Et alors, ton rythme, pareil, pour donner un petit peu de contexte, ton rythme de voyage, puisque j'ai l'impression que tu... Enfin, c'est vraiment du long terme, tu pars sur le long terme. Donc, c'est quoi un peu le rythme que tu as eu, en tout cas, depuis 2021, puisque avant, tu as déjà eu des voyages, mais depuis 2021, c'est quoi ton rythme ?
Ouais, bah du coup, en septembre 2021, on est parti avec Charlie et notre 4x4 pour faire le tour du continent africain. Et en fait, nous, on voulait pas partir pour des années sans jamais revenir parce que c'était pas ce qu'on souhaitait. Donc, on s'est dit qu'on partait pour un rythme de 8-9 mois en voyage. Et après, on rentrait en France pour 3 ou 4 mois pendant l'été, principalement pour se ressourcer un petit peu, lever le pied par rapport à la vie nomade, retrouver nos proches, nos familles, nos amis. Et puis au passage, moi je suis aussi photographe de mariage l'été, donc ça me permet de faire les saisons en plus de tout le travail que j'ai le reste de l'année. Donc on est sur un rythme un petit peu comme ça, qui nous convient bien. Ce qui permet de vraiment prendre le temps sur place dans les différents pays, de pas se sentir dans le rush en se disant on a que 2 ou 3 semaines pour découvrir X pays. Et là au moins on peut prendre un petit peu plus le temps tout en sachant que au bout d'un certain moment on va pouvoir un petit peu se reposer parce qu'on n'a pas forcément l'impression, mais ce genre d'aventure c'est quand même très fatigant, surtout quand on voyage et on travaille en même temps, donc c'est pas du tout des vacances, c'est un rythme qui est assez intense entre les découvertes, les moments où il faut faire du montage, de l'écriture, répondre aux mails, tout ça. Donc il y a un moment donné, ça fait aussi du bien au bout de quelques mois de lever un peu le pied.
Oui, de se poser un petit peu, d'être ancré quelque part, de pas bouger tout le temps.
C'est ça.
C'est vrai que c'est une durée indéterminée. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ça donc, avec Charlie pendant X années. Enfin, il n'y a pas de deadline. Tu t'es vraiment dit, on fait ce projet, je pars et on verra.
Ouais, en fait, il n'y a pas de deadline. Alors, à la toute base, on était parti pour faire 3 ans parce qu'on pensait que le tour d'Afrique serait bouclé en 3 ans. Clairement, ça ne sera pas le cas parce que là, au bout de 2 ans, on arrive à peine en Namibie. Donc, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps. Et puis surtout, là, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu parce que depuis quelques mois, on a pris la décision avec Charlie de se séparer. Donc, on était en couple et puis là, on a décidé de faire chacun notre petit bout de chemin. Donc, on s'entend toujours bien. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on se sépare parce qu'un voyage comme ça, H24, dans un petit 4x4, bon, c'est bien un temps, mais si, oui. Même si la relation est saine, faut peut-être aussi couper le cordon. Du coup, on va, je pense, réaménager un petit peu notre temps et nos envies chacune de notre côté. Et moi, je sais que j'aimerais tendre vers un équilibre un peu différent de voyage qui serait plus du partir 3 mois, rentrer 3 mois, ce qui ferait sur l'année 6 mois en vadrouille et 6 mois posé sédentaire pour avoir justement un meilleur équilibre en étant toute seule, par rapport au voyage qui va être encore plus intense et les moments où j'ai envie de pouvoir avancer sur d'autres projets, sur plein de petites choses et là où j'ai besoin d'un cadre un peu plus formel, on va dire. Donc ce qui fait que ça reste toujours à durée indéterminée parce que je ne sais pas du tout ce que je veux faire exactement. Je sais que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce tour d'Afrique. Mais ensuite, toutes les possibilités sont là. Est-ce que j'aurais envie de rentrer? Est-ce que j'aurais envie de découvrir le Moyen-Orient, l'Asie centrale? Je ne sais pas. Tout est possible.
Tout est possible, d'accord. Ok. Et alors pourquoi, parce que tu parles d'autres continents, mais alors pourquoi le continent africain? À l'origine, tu connaissais déjà? Vous étiez déjà venues toutes les deux sur ce continent-là? Ou c'est vraiment une pure découverte de A à Z?
Moi, j'étais déjà allée plusieurs fois, notamment pendant mon tour du monde en solo. J'avais découvert pour la première fois le Kenya et la Tanzanie. J'avais adoré ces pays-là. C'est des pays très riches culturellement, très beaux. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, en y étant seule, j'avais aussi beaucoup aimé parce que les rencontres sont simples. Alors des fois, le rapport homme-femme est un peu différent, surtout quand tu es une nana qui voyage seule. Y a des regards qui peuvent être un petit peu trop curieux, mais ça reste, enfin c'est toujours resté en tout cas pour moi dans la bienveillance, c'est juste de la curiosité. Et du coup, j'avais très envie de pouvoir découvrir plus en profondeur ce continent. Pour Charlie, c'était la même chose. Et d'autant plus, moi, dans mon métier, du coup, de partager des petits reportages photos ou vidéos, je trouvais ça vraiment ultra intéressant d'aller sur un continent dont on n'entend quasiment que du mal, qui est victime de beaucoup de généralités. Malheureusement, quand il y a quelque chose qui se passe dans une région d'un pays, les gens ils ont l'impression que ça se passe dans tout le continent, alors que c'est pas du tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était un beau challenge de me dire que j'allais moi-même aller dans ces pays-là, essayer de découvrir une certaine réalité et puis partager ce que je découvrais, mes expériences, que ce soit autant le côté bien que pas bien. S'il y avait des galères en chemin ou des choses négatives à dire, je voulais aussi les dire, mais montrer que dans des pays où il y a pu avoir des conflits, où il y a pu avoir des moments un petit peu négatifs dans l'histoire, en fait aujourd'hui c'est totalement possible d'y voyager. Je pense notamment à l'Angola qui était encore en guerre civile il y a quelques années. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Le Nigeria, dans le nord du pays, il y a des conflits, c'est réel. Mais il n'empêche qu'on peut quand même traverser certaines parties du pays et que les gens sont super gentils pour la plupart. Enfin, voilà, il y a plein de choses et de préjugés un petit peu à déconstruire et c'est ça qui est super intéressant.
Oui, c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, je trouve, dans votre aventure. C'est que vous êtes quand même deux nanas, vous partez avec une voiture, avec un 4x4, où il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des galères à ce niveau-là. Je suis impressionnée parce que je me dis qu'il faut vraiment vouloir et démocratiser un peu. C'est vrai que, comme tu dis, le Gabon, l'Angola, moi, personnellement, quand tu me parles de ces pays-là, je ne vois pas à quoi ça ressemble et je pense que je ne dois pas être la seule. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'on peut voyager dans plein de pays en Afrique et ne pas généraliser, comme tu disais, c'est...
Ouais, totalement. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient un petit peu les choses que je partage sur les réseaux, ils se disent « Ah, mais tel pays, c'est safe. Tel pays, il y a autant de verdure. » En fait, les gens, ils ont vraiment l'impression que l'Afrique, c'est dangereux et désertique. Oui. C'est vraiment les clichés de base.
Oui, c'est vrai, c'est le cliché, c'est vrai.
Alors que non, il y a déjà, c'est safe pour la plupart des endroits. Y a un énorme poumon vert sur le continent. Enfin, au final, le désert ne représente pas la majeure partie du continent. Et puis, y a des gens qui vivent très bien aussi dans le pays. Y a des grandes villes qui sont très modernes, très développées, très fortes économiquement. Alors oui, il y a à côté des petits villages aussi un peu plus ruraux où les gens vivent un peu plus simplement. Il y a certains pays où il existe... Des réels problèmes de famine et autres, mais ces pays-là sont une minorité sur le continent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les gens, quand ils voient ces images et tout dans les commentaires, ils viennent dire « Oh, mais j'imaginais pas que c'était comme ça ». Et c'est là que moi, personnellement, je me dis que j'ai réussi à peut-être faire changer quelques idées à certains, donc c'est chouette.
Oui, bah c'est vrai que moi, franchement, l'Angola, j'ai regardé ta dernière vidéo sur l'Angola, je me suis dit, mais c'est dingue, il faut y aller, en fait.
Ouais, c'est clair.
Donc, ça veut dire que vous avez commencé par le Maroc.
Exactement.
Et vous êtes arrivé en Namibie.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça représente combien de pays ?
J'avais compté la dernière fois, et là, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à peu près 17 ou 18 pays.
Ah oui, quand même. Ouais. Tout ça en 2 ans, donc.
Ouais, c'est ça. Étalé sur 2 ans. Alors, on a fait deux allers-retours en France au passage. Donc, ce n'est pas 2 ans complets au final, mais c'est sur 2 années. Et en fait, ouais, il y a... en Afrique, il y a un petit peu plus d'une cinquantaine de pays. On ne s'en rend pas forcément compte. Il y en a, ils ont l'impression qu'il y a genre juste 10 pays en Afrique, mais il y en a une cinquantaine. Donc, on n'a même pas fait la moitié. Et puis, sachant qu'on ne pourra pas tous les faire non plus, parce qu'il y a certains pays... notamment du centre et du nord, que voilà, il faut non plus pas trop y aller par rapport aux situations actuelles. Il faut pas se mettre en danger pour rien, mais à la fin, j'ai même pas calculé, mais je pense qu'on devrait dépasser une trentaine de pays sur la cinquantaine, donc c'est déjà pas mal pour avoir une idée assez variée et diversifiée du continent.
Oui, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, surtout que vous êtes pour le tour, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest vont être balayés. Donc oui, c'est pas mal, effectivement. Et tu parlais tout à l'heure, je reviens sur ça, parce que je pense que ça, il y a forcément des auditeurs qui se posent la question, par rapport au fait d'être deux femmes. Est-ce que vous avez eu des anecdotes positives, négatives, dans les deux sens, enfin, est-ce que ça surprend, non, deux femmes qui voyagent toutes les deux
Ouais, bah ça. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on soit une ou deux, ça change pas grand chose pour eux. Ce qui change beaucoup, c'est qu'à côté de nous, il n'y ait pas de figure masculine. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y en a certains qui ont l'impression que, je sais pas, on est des petites choses faibles, des petites choses qui, voilà, qu'il faut faire attention. Alors, bon, c'est des fois, ça part d'une intention très mignonne. Certains qui veulent nous prendre un peu sous leur aile, je sais pas, moi, par exemple un soir on va rentrer d'un endroit, alors c'est assez rare qu'on soit en ville le soir parce qu'on fait beaucoup du bivouac sauvage, mais c'est déjà arrivé, et des fois tu rencontres quelqu'un qui va dire non mais moi je veux pas te laisser rentrer seule de nuit dans la ville, alors que c'est une ville assez safe, hein, mais ils ont quelques petites croyances. Et du coup, bah, ils vont nous payer le taxi ou ils vont nous ramener eux-mêmes jusqu'à un endroit. Et là, dans ce sens-là, c'est assez mignon, on va dire. Après, là où c'est un peu plus relou, c'est principalement avec les autorités. Quand on a des checkpoints ou quand on est aux frontières, du coup, ils voient deux nanas et ils essayent un petit peu... de nous draguer, de lancer des petits pics, des petits regards, de choper nos numéros, tout ça. Là, c'est un peu relou. C'est-à-dire qu'au début, tu rigoles un peu, t'es là, ouais, bah non, t'essaies de dire, bah, je suis pas libre, j'ai un mari en France, machin. Et puis, en fait, ils ont toujours des trucs à te dire, comme quoi, bah, t'as peut-être un mari en France, mais si t'as pas de mari dans tel pays, ça compte pas pour eux. Donc, okay. Au début, c'est un peu drôle. Et puis, au bout d'un moment, quand c'est le 15e dans le mois, en fait, on coupe court. C'est clairement quand on voit que les gars, ils viennent nous parler, non pas juste pour s'intéresser à ce qu'on fait et au voyage, mais plus pour essayer de choper notre numéro ou quoi que ce soit. On dit tout de suite, non, mais c'est bon, on n'est pas intéressés, laisse-nous tranquille. On est vachement plus ferme. Mmh. Et ça marche un peu mieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les femmes leur répondent ou soient fermes. Donc, on trouve un petit peu des techniques au fur et à mesure. Après, heureusement, c'est pas tous les hommes. Il y a quand même une majorité qui viennent nous parler juste pour comprendre ce qu'on fait, nous poser des questions, par où on est passé, est-ce qu'on vit dans le 4x4, montrer un peu l'aménagement. Donc ça, c'est des moments un petit peu chouettes. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu relou. Les libertés que certains ont l'impression qu'ils peuvent prendre, tout ça parce qu'on est deux femmes. Donc nous, on essaie de leur montrer que non, non, C'est pas une réalité, ça.
Faut cadrer les choses. Ouais, je pense qu'on apprend à être un peu plus ferme au fur et à mesure. Au bout de
la
15e fois, on doit être un peu plus, peut-être un peu plus sec et pour couper court facilement.
Ah oui, bah, il faut s'endurcir, hein. Franchement, les premières fois, t'oses pas trop dire. Clairement, moi, les premières fois, quand on me demandait mon numéro, je donnais mon numéro. Parce que c'était plus simple, en fait. Le gars était tellement insistant que je lui donnais mon numéro. Et puis après, une fois qu'il m'appelait, je le bloquais et puis fini. Après, je suis passée à un truc où quand ils étaient vraiment insistants, je donnais mon numéro, mais je changeais juste le dernier numéro. Oui. Donc, comme ça, c'était pas le mien. Bon, du coup, j'espère que quelqu'un ne s'est pas récupéré 15 millions d'appels de relous. Donc, j'ai arrêté de faire ça aussi. Et maintenant, clairement, je leur donne pas mon numéro. Je leur dis fermement que mon numéro, c'est pour mes proches, ma famille, mes amis, que si je te connais pas, je te donne pas mon numéro, que ça marche pas comme ça avec moi. Et que c'est seulement si, voilà, on passe plusieurs jours ensemble parce que, je sais pas, on est au même endroit, je découvre ce que tu fais, quoi que ce soit, et qu'il y a vraiment un lien d'amitié qui se crée sans ambiguïté, que là, je peux donner mon numéro parce que les gens que je rencontre et avec qui je passe vraiment des moments assez forts, j'ai envie de garder leur contact et d'avoir de leurs nouvelles. Donc ça, c'est le cas. J'ai des gens sur WhatsApp avec qui je discute de temps en temps, mais c'est vraiment des gens impactants, entre guillemets, dans mon voyage, et pas juste le policier du bord de la route qui m'a croisé et il m'a trouvé un peu sympathique et veut mon numéro. Ça marche plus, ça.
Alors justement, les belles rencontres, tu parlais des rencontres avec des gens et des gens avec qui tu as dû créer des liens quand même assez forts, parce qu'on sait qu'en voyage, ça resserre les liens assez instantanément. Enfin, ça dépend avec qui, mais en tout cas, ça peut être très fort. Et donc, qui tu as rencontré sur place, des locaux, des voyageurs, qui, je sais pas, quelle est ta plus belle rencontre, par exemple ?
C'est compliqué, ça, comme question. Bah oui, on fait beaucoup de rencontres, de belles rencontres, notamment parce que avec mon travail, moi, j'essaie de vraiment m'intéresser à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et des fois, quand on croise le chemin de certaines personnes qui vont nous dire, bah moi, je fais telle activité ou j'habite dans tel endroit, moi, je suis très intéressée pour essayer de partager ça en images. Et du coup, je raconte ce que je fais aux gens, je leur demande est-ce que tu serais OK pour nous montrer, est-ce que je pourrais filmer un petit peu avec ma caméra. Et dans ces moments-là, on rentre un petit peu dans l'intimité de la personne et c'est là qu'on crée aussi des liens assez forts. Des fois, on passe plusieurs journées avec des gens et c'est vraiment génial quand ils nous font confiance et qu'ils nous ouvrent les portes de chez eux ou qu'ils nous montrent ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est vrai que des rencontres, il y en a pas mal. Par exemple, au Maroc, là où on a commencé, en fait, on a passé 4 mois dans le pays parce que c'était au moment où ils avaient refermé un petit peu les portes par rapport au Covid et tout, en prévention. Donc, on était parmi les seuls touristes dans le pays. Personne pouvait rentrer, personne pouvait sortir. Et nous, on était rentrés genre 2 semaines avant qu'ils referment les frontières. Et au final, c'était absolument génial parce que les gens étaient super contents de voir des touristes et on a pu créer des liens très forts, notamment dans un endroit, c'est une palmeraie qui s'appelle Skoura, où on a passé plusieurs semaines sans trop bouger. Et en fait, on rencontrait plein de gens à droite à gauche qui nous montraient leur savoir-faire. Donc, on a rencontré, par exemple, un potier qui s'appelle Mohamed, qui nous a montré comment il vivait, ce qu'il faisait, comment il essayait de développer un petit peu son activité. Donc, moi, j'avais fait un petit reportage sur lui, un petit portrait pour montrer, justement, essayer de mettre en avant les jolies choses qu'il faisait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, cette vidéo sur Mohamed a fait plus de 1 million de vues sur YouTube. C'était totalement fou.
Ah ouais.
Et en fait, depuis ce moment-là, sa vie a beaucoup changé.
T'as aidé ce business ?
Clairement, ça, mine de rien, je le prends pas pour moi, hein, parce qu'en soi, c'est lui qui fait tout le travail. Mais disons que j'ai peut-être pu être un petit tremplin avec cette vidéo. Mais je suis retournée le voir plusieurs fois depuis cette vidéo. Et à chaque fois, il est trop mignon. Enfin, il me dit merci, merci, grâce à toi. Il y a plein de gens qui viennent. Ils viennent en me disant qu'ils m'ont découvert dans tes vidéos, dans tes images. Et, Et du coup, il a un carnet de commandes qui est ultra booké. Et ce genre de belles histoires, je me dis, c'est trop fou parce que autant on a l'impression des fois que les réseaux sociaux, c'est un petit peu superficiel, c'est un petit peu fake et tout. Et là, tu te dis, bah, en fait, non, si tu l'utilises d'une bonne manière, bah, tu peux faire des choses intéressantes et des choses impactantes et faire en sorte que peut-être qu'une vidéo, ça va changer, entre guillemets, la vie de quelqu'un. En tout cas, ça va l'aider. Et moi, je trouve ça totalement incroyable. Donc, il y a eu plusieurs personnes au Maroc qu'on a rencontrées et vraiment, ça a matché tout de suite parce que je pense à, par exemple, Afid, qui était un pêcheur le long de la côte à Essaouira, où son histoire, elle était magnifique. Il vivait dans un petit cabanon avec son frère directement sur la plage. Et toutes les nuits, il part avec sa bouée dans les vagues de l'Atlantique pour aller pêcher parce que c'est la nuit qu'il y a le plus de poissons. Et puis, il ramène quelques poissons selon si la pêche est bonne ou pas. Il va essayer de les vendre après, soit aux touristes, soit aux restaurateurs du coin. Et en fait, il a une résilience qui est incroyable. Il a toujours le sourire et toujours de bonne humeur. Et quand tu prends le temps de passer quelques heures avec lui, tu te rends compte que son quotidien est quand même vachement intense et compliqué d'un point de vue extérieur. Mais en fait, lui, il se sent bien là où il est. Il aime ce qu'il fait, il aime son environnement. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que les deux frères avaient perdu leur papa justement lors d'une nuit de pêche où en fait il y avait eu beaucoup de houle et une vague avait retourné sa bouée. Et le lendemain matin, en fait, c'est les deux frères qui avaient retrouvé le corps de leur père un peu plus loin sur la plage. Et tu te dis, il faut une sacrée résilience pour se rendre compte qu'en fait, tu as quand même envie de continuer parce que c'est la passion de ta famille, que ça ne te stoppe pas et que tu continues avec le sourire incroyable. Et c'est des leçons de vie c'est des leçons de vie vraiment trop belles parce que quand toi, tu vois ça, tu te dis, ah ouais, ok, bon,
tu relativises parfois, ouais.
Ouais, sur beaucoup de choses. Et pareil, quand j'avais fait son portrait sur YouTube, ça avait touché beaucoup de personnes. Donc, je trouvais ça génial de pouvoir partager ça.
C'est super. Déjà, tu contribues à une visibilité et puis tu partages des vies qui sont quand même dingues et des situations de vie que nous, on n'imagine peut-être même pas des fois. Mm. On ne se rend même pas compte. Donc, ça veut dire que tu fais plusieurs portraits. Là, tu nous as parlé de deux portraits. Donc, dans tous les pays, quand tu sens qu'il y a un intérêt ou qu'il y a une connexion avec quelqu'un, tu te dis « hop, je fais un portrait, je fais une vidéo pour présenter la personne ».
Ouais, j'essaye au maximum. En gros, dans mes vidéos, il va y avoir une partie un peu plus vlog, journée de tous les jours sur la route, partager un petit peu le côté 4x4, aventure, nos ressentis le long du voyage. Et puis, ce qui m'importe quand même le plus, c'est de pouvoir mettre les autres en avant. Donc, en effet, moi, j'essaye de trouver différents angles, différents sujets à mettre en lumière à travers mes images. Alors, c'est pas planifié à l'avance, c'est pas comme des gros documentaires où il y a toute une équipe, toute une préparation pour vraiment savoir de quel sujet on va parler, comment ça va se passer et tout. Moi, c'est vraiment imprévu parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment on va être dans tel pays, on ne sait même pas exactement par où on va passer. Ça, on fait plutôt au fur et à mesure, donc je peux pas trop prévoir, mais j'arrive, quand on rencontre des gens, à me rendre compte de si un sujet peut être intéressant, si la personne elle a une histoire particulière et que ça pourrait être super cool de la partager. Et dans ces moments-là, j'essaye, comme je le disais, d'expliquer le projet, de prendre le temps, de voir si est-ce qu'il peut accepter la caméra, est-ce que non. Si c'est non, tant pis, des fois il y a des frustrations, il y a des très belles histoires à raconter, mais les gens ils n'ont pas du tout envie de parler devant une caméra, donc dans ces cas-là, je respecte, je dis tant pis. Mais le but, oui, c'est d'essayer de rencontrer le maximum de personnes et de les mettre en avant, parce que le côté humain dans cette aventure, pour moi, est le côté le plus important, beaucoup plus important que le fait d'être deux nanas qui voyagent dans un 4x4. Moi, c'est, comme je le disais, c'était pour briser un petit peu quelques préjugés. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de laisser les gens parler de leur endroit, de leur ressenti. Donc, j'essaie de faire au maximum. Mais des fois, c'est compliqué de rencontrer des personnes aussi. Quand, je sais pas, moi, on traverse des centaines de kilomètres où c'est juste d'immenses forêts, on ne croise pas beaucoup de villages. Et du coup, des fois, pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines, on n'a pas de rencontres impactantes, entre guillemets. Donc, on va quand même croiser des gens, mais pas des gens avec qui on arrive à lier une certaine connexion qui va ensuite nous permettre de découvrir ce qu'ils font. Donc, c'est un certain équilibre à avoir. J'essaye de, au maximum, pouvoir rencontrer des gens ou bousculer un petit peu le destin. Et puis après, je laisse vraiment l'imprévu faire et je m'adapte autant que je peux.
Donc, ça vous arrive aussi de faire des kilomètres et des kilomètres sans voir personne?
Ça nous arrive, ouais. Ouais, ouais. Pas tant que ça, mine de rien, parce que y a toujours des villages quelque part, ou même quand on se pose au milieu d'une forêt, au milieu de la brousse, en fait, quasiment tout le temps, il y a au moins une personne qui va passer parce que tu vas être sur le chemin d'un berger qui ramène son troupeau, c'est très souvent ça, où tu vas pas t'en rendre compte, mais en fait, à 500 mètres, y a un petit village un petit peu caché, et puis quand les gens ils vont entendre du bruit à côté ou ils vont voir des lumières, par curiosité, ils vont venir te voir. Donc, on est quand même très peu toute seule, ou alors il faut vraiment qu'on le cherche en allant justement en fin fond du désert de la Mauritanie ou en pleine forêt, je sais pas, au Bénin ou au Gabon. Voilà, il y a quand même très souvent des gens. Mais ça nous arrive de faire plusieurs centaines de kilomètres où on va croiser très peu de personnes et on va pas voir de gros villages ou de commerces ou de choses comme ça.
D'accord. Et donc, les spots pour bivouaquer, vous les trouvez le jour même, j'imagine ?
Enfin, la plupart, oui.
Ouais. Et alors, fais-nous un peu rêver, hein, mais c'est quoi le meilleur spot que vous ayez eu là pour le moment ? S'il y en a un, parce que j'imagine que c'est, voilà, les paysages sont certainement très très différents, mais si tu devais en choisir un ?
Alors, il y en a plusieurs, en effet, parce que genre, je me rappelle être face à différents paysages et me dire celui-là il rentre dans le top 10. Et des fois, je me dis assez souvent il rentre dans le top 10, donc je pense que le top 10 a été un petit peu explosé depuis le début du voyage. Mais en gros, le spot vraiment parfait, c'est un spot où il va y avoir personne autour, où on va pouvoir être un petit peu dans notre bulle et pas se sentir gêné par rapport à des gens qui habitent à côté. Et du coup, voilà, on ne veut pas s'imposer à côté de village ou quoi que ce soit. Donc, c'est un spot où il n'y a personne, où il y a une bonne connexion Internet. Ça, c'est important pour nous qui travaillons pendant le voyage. Et le petit plus, c'est d'avoir une vue incroyable. Donc, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre de spot. Je sais pas, moi, dernièrement, par exemple, dans le dernier pays qu'on a fait, qui est l'Angola, on en a eu plusieurs parce que les paysages sont complètement dingues là-bas. On s'est retrouvés notamment sur un énorme rocher face à une vue dégagée sur la forêt. Il y avait toutes les cases qui étaient cochées, il n'y avait personne, il y avait Internet, et on avait cette vue de ouf. Donc on a une tente sur le toit, et en fait, t'ouvres ta tente, t'ouvres ta petite fenêtre, et tu te rends compte que ton 4x4, il est perché sur un énorme rocher, et que t'as une vue aux alentours qui est à couper le souffle, et là tu te dis, ah ouais, genre, c'est exactement ce que je recherche quand je pars avec mon véhicule qui est aménagé pour ce genre de moment. Et que si j'avais pas de véhicule, en fait, je pourrais pas vivre. Enfin, je pourrais pas me réveiller à ce moment-là. Alors, tu pourrais. Il y en a qui font en stop ou avec des tentes et tout. Il y a toujours des moyens de faire, mais le véhicule, il amène quand même un certain confort et une certaine facilité qui est absolument incroyable. Et dans ce moment-là, tu te dis, c'est fou. Enfin, plutôt que de te réveiller dans ta chambre, dans ton appartement, tu te réveilles dans ta tente de toit et avec une vue sur la nature au fin fond d'un pays que peu de gens connaissent. Et c'est des sensations absolument folles.
Bah ouais, j'imagine, et puis j'ai la vidéo en tête, donc je vois le spot, cher auditeur, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur YouTube. C'est vrai. Et donc là, vous êtes resté plusieurs jours. Quand un spot vous plaît, vous dites, on reste, on s'installe un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Comme je disais, le principal facteur pour rester plusieurs jours, c'est Internet. Parce que des fois, ça nous arrive d'être dans des spots totalement fous. Mais il n'y a pas Internet, du coup on sait qu'on va y rester qu'une nuit parce que niveau taf c'est un peu trop compliqué. Mais quand tout y est, clairement on peut y rester plusieurs jours. Ça nous est déjà arrivé de rester, je crois que le maximum qu'on ait fait c'est 10 jours au même endroit sur une plage en Guinée-Bissau où on s'est installé, on était trop bien. En plus là pour le coup on a rencontré différentes personnes, donc ils venaient nous rendre un petit peu visite depuis le village voisin. Et on avait vu océan pour se réveiller. En même temps, on pouvait travailler tranquillement dans le 4x4. Donc voilà, c'est un mix de par rapport à si on se sent bien sur le spot, si on a du temps aussi, parce qu'après, on est mine de rien un petit peu timé quand même par rapport au visa et aux différentes saisons. Même si on part à durée indéterminée, on peut pas non plus rester 6 mois dans chaque pays. Il y a des règles aussi. Donc des fois les visas, on peut avoir 3 mois de visa. Donc là on est tranquille, mais la plupart du temps c'est plutôt 1 mois. Et puis la saison des pluies, elle peut être très violente selon les coins d'Afrique. Donc il y a un moment où par exemple quand on est arrivé au Cameroun, on savait qu'on allait croiser la saison des pluies parce qu'elle remontait et nous on descendait. Donc il fallait pas non plus trop traîner. Et puis au final, on se l'est tapé entre le Gabon et le Congo. Elle a été bien violente. Donc on a eu des petits passages sur des pistes où voilà, c'était assez hardcore et on était contente d'avoir ça que pendant quelques jours et pas pendant plusieurs semaines parce qu'on avait essayer de réfléchir un petit peu justement à arriver à peu près à tel pays, à telle période, parce qu'on savait qu'après ça allait être l'enfer et le but de se mettre dans la sauce pour rien. Enfin, si croiser une saison des pluies, c'est normal dans un voyage et d'autant plus sur le continent africain, ça fait aussi partie des expériences. Moi, je trouve ça vachement intéressant d'apprendre à conduire dans la boue, de savoir comment réagir, quels sont les bons réflexes à avoir. On apprend au fur et à mesure, mais on va pas non plus s'infliger ça pendant 6 mois juste pour dire, voilà, on est des super aventurières, on a fait 6 mois de saison des pluies, on s'en fiche, quoi. Bon, on a fait.
Oui, clairement.
Ça nous a suffi amplement, on a pris notre expérience, et puis on verra la prochaine fois qu'on en recroisera une.
Donc, vous avez eu des galères niveau piste, niveau boue, niveau pluie, tout ça. Et, ouais. Et donc là, tu te retrouves... Enfin, moi, je me projette et je me dis, si je suis toute seule dans le 4x4, au milieu de la pampa, dans la boue, je peux te dire que je reste enlisée dans le truc, je pense.
Franchement, en fait, c'est vraiment dans ces moments-là que tu te rends compte que tu es capable d'énormément de choses. Ouais. Et ça, c'est assez drôle parce que quand je raconte ces moments-là ou quand mes proches, ils ont vu les vidéos correspondantes, tu vois, ils vont me dire « Oh là là, vous avez fait ça et tout. » Et moi, je suis là « Bah ouais. » En fait, je trouve pas ça exceptionnel en l'ayant vécu parce que je me rends compte que je pense que plus ou moins n'importe qui se retrouve dans cette situation-là, bah, on a tous un instinct. Alors peut-être qu'au début, on va paniquer pendant une demi-heure et puis au bout d'un moment, quand on va reprendre un peu nos esprits, on va se dire « Ok, bon, je suis pas débile. Pour sortir, je peux analyser la situation. Il faudrait que je fasse ça, Sachant que nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyageait avec le 4x4. On connaît ses capacités. On sait plus ou moins les bons réflexes qu'il faut avoir par rapport à où faut placer les roues. Faut anticiper, faut dégonfler un petit peu les pneus pour avoir une meilleure adhérence, ce genre de choses. Et en fait, on apprend simplement. Nous, à la base, on n'était pas du tout calés en mécanique, en conduite 4x4, en aventure. On n'avait jamais fait ça avant. Et on a juste appris sur le terrain. On a appris justement dans ces expériences, dans ces situations un petit peu plus délicates où tu te retrouves face à quelque chose, tu n'as pas d'autre choix que de réussir à en sortir. Donc, il faut prends le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant parce que c'est vrai que quand je regarde après les images ou quoi, je me dis, ah ouais, on était quand même sacrément dans un bordel.
Un peu dans la merde.
Ouais, qui de l'extérieur peut paraître très, très, très galère. Et en fait, quand je me rappelle des sensations que j'avais quand j'y étais sur place, enfin, j'étais pas paniquée, tu vois, j'étais calme. Fallait juste essayer d'analyser la situation et de faire au mieux. Et du coup, c'est marrant, après, ce genre de conversation qu'on a où nous, sur place, on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais à travers le regard des autres personnes qui n'étaient pas là et qui voient juste les images, ouais, on a l'impression d'être des aventurières de fou, quoi. C'est drôle.
Ah bah, c'est clair. Attends, oui, c'est évident que quand tu vois les images et que tu te projettes, c'est parce que je pense qu'on se met un peu à votre place. On se dit, mais comment moi j'aurais réagi ? Ouais. Et c'est vrai que, mais comme tu dis, je pense qu'on apprend au fur et à mesure, on s'adapte. Et puis bon, là, vous commencez à être rodés. Je pense que ça fait quand même de nombreux mois. Donc, ouais. J'imagine que vous êtes rodés sur le sujet. Et alors, sur cette partie un peu 4x4, c'est quoi la pire galère que vous ayez eue, mais qui galère, qui j'imagine s'est bien terminée parce que voilà.
Oui, qui s'est bien terminée parce qu'on est toujours là, le 4x4 aussi.
Voilà.
La plus grosse galère, mais du coup, c'était pas point de vue mécanique, c'était manque d'expérience au début de notre voyage quand on était dans le sud-sud du Maroc. Vers Darla, où on était allé se balader un petit peu dans un endroit qui s'appelle la Dune Blanche. Donc, tu as une superbe dune au bout d'une piste. Et en fait, ce qu'on ne savait pas exactement, c'est que cette dune, selon les coefficients de marée, elle peut devenir une île. Elle est littéralement entourée d'eau. Et donc, pour y aller, tu as une trace à suivre tout droit qui est possible quand les coefficients de marée sont bas et qui est impossible quand les coefficients sont trop hauts. Donc là, les coefficients étaient assez moyens, donc il y avait des traces. D'ailleurs, quand on est arrivé à cette dune, il y avait d'autres 4x4, donc on ne s'est pas non plus lancé dans n'importe quoi.
C'était réfléchi.
C'est ça. Donc on est allé vers ces 4x4, on a suivi leurs traces, on a profité de la dune, et au moment où on est reparti, les 4x4 n'étaient plus là, il n'y avait plus personne. Et du coup, moi, je voulais vraiment faire une image du 4x4 qui roule sur cette superbe piste, il n'y a rien autour. Donc je dis à Charlie, vas-y, moi je reste au pied de la dune, toi tu fais juste un petit aller-retour, et puis tu reviens me chercher, comme ça j'ai mes images, et puis on s'en va. Et du coup elle part, donc elle repasse dans les traces de la piste, très bien. Et au moment de faire demi-tour, elle se décale, mais vraiment allez, 2 ou 3 mètres de la piste, le temps de faire vraiment le demi-tour. Et en fait, on ne se rendait pas compte parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, la surface du sable, c'était des grains très secs. Donc, tu avais l'impression que c'était du sable tassé et bien dur. Et en fait, pas du tout. C'était juste une micro pellicule sur le dessus. Et donc, elle a commencé à rouler et puis à s'enfoncer un peu. Et puis après, le 4x4, il était littéralement posé, le châssis sur le sable. Et là, on s'est dit « Ah !» Là, on est peut-être dans la merde. Donc, on a essayé de prendre le temps de réfléchir. Et en fait, c'est là qu'on a eu des mauvais réflexes parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait dans cette situation, qu'on ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. Et en fait, on aurait dû directement dégonfler les pneus au maximum pour que, en fait, au lieu que ton pneu il soit vraiment droit, il vienne s'écraser sur le sol. Et ça fait un peu l'effet motoneige ou l'effet raquette dans la neige. Plus ta surface elle est large, plus tu vas réussir à marcher sur des surfaces qui normalement s'enfoncent sous ton poids. Donc on aurait dû faire ça, mais on n'avait pas encore les bons réflexes. Donc on a essayé d'autres petits trucs, on a mis... En plus on n'était pas très équipés à ce moment-là, on n'avait pas encore les plaques de désensablage, donc c'est des plaques en dur que tu mets sous les roues pour sortir, ça vient accrocher, il y a des petits picots, ça vient accrocher au pneu et t'aider à sortir, on n'avait pas encore ça. Donc on a essayé de mettre les tapis de sol du 4x4 sous les pneus pour que ça vienne accrocher, mais ça n'a rien accroché du tout, ça les a juste dégueulassés, tout mouillés, donc ça n'a pas marché, ça nous a même enfoncé encore plus. Et, parce que si tu continues de faire tourner tes roues dans le mou, en fait, les roues, elles creusent.
Elles s'enfoncent encore plus.
Vraiment, là, le châssis était littéralement dans le sable, donc c'est pour dire que on était quand même bien enfoncé parce que le 4x4 est haut, les roues sont hautes. Et là, on avait le châssis dans le sable, donc on ne pouvait rien faire nous-mêmes. Donc heureusement, on avait le contact de quelqu'un qui était pas loin. Alors il y avait d'autres voyageurs et puis il y avait des gens qui tenaient un site de kitesurf et qui étaient passionnés de def aussi. Ils avaient des defenders eux-mêmes. Donc on a appelé un petit peu tout le monde. Finalement, ils sont venus avec le 4x4 des gens du kitesurf, avec des cordes et tout, des pelles, donc bien plus équipés que nous. Et puis on s'est mis à plusieurs pour creuser, pour essayer de soulever le 4x4, parce que même avec l'aide d'un autre véhicule, c'était pas gagné, parce que même s'ils nous tiraient, à ce moment-là, on était face à un mur de sable, donc on risquait pas de sortir. Donc il fallait vraiment creuser, mettre des choses en place et tout. Et en fait, ce qui était le plus stressant dans tout ça, c'est que la marée, elle montait au fur et à mesure. Donc on voyait à l'œil nu, parce que c'était très plat autour de nous, à l'œil nu, chaque minute, les vagues, elles venaient de plus en plus proches. Et on n'avait aucune idée du coefficient de marée ce soir-là. On ne s'était pas renseigné, donc c'est là aussi notre erreur. Et on ne savait pas, il y avait une réelle possibilité que le coefficient soit fort et que la marée, elle vienne recouvrir totalement le 4x4. Vu qu'on était à ras du sable, ça aurait pu rentrer dans notre aménagement, enfin ça aurait pu vraiment détruire notre aménagement, alors que ça faisait 3-4 mois qu'on était partis, donc c'était genre, allez, ciao, goodbye, vous faites demi-tour et puis l'aventure est finie, c'est juste pas pour vous, quoi. Et c'était vraiment stressant. Et en fait, on a réussi à avoir juste un petit peu de réseau pour voir, non pas le coefficient, mais l'heure à laquelle la marée serait la plus haute. Et du coup, c'était genre sur les coups de 19h. Ça correspondait à peu près au coucher du soleil. Et du coup, quand on voyait le soleil se coucher et qu'on a vu qu'il était genre 19h, il devait être peut-être moins 10 ou moins le quart, et que l'eau était à franchement 5 mètres du 4x4, là, on s'est dit... Alors, dans un sens, moi, je flippais parce que vraiment, je voyais l'eau se rapprocher. Et quand Charlie m'a dit « Non, mais ça va être bon, il va être 19h, donc là, ça va être le pic, ça va être le max. Après, elle va rester là et puis elle va redescendre. » On a eu un soulagement de se dire « On a trop de chance que le coefficient, il soit pas trop fort. » Et au final, on a réussi, au moment du coucher du soleil, à sortir le 4x4. Une bonne grosse galère. Et puis, en discutant avec les gens du kitesurf, donc avec Dalal et Amine, eux, ils nous ont dit qu'ils connaissaient vraiment la région et que ça arrivait quand même assez souvent que la dune devienne une île et qu'ils avaient vu d'autres voyageurs perdre leur véhicule à cet endroit-là, que tu pouvais voir des carcasses de véhicules, en fait, aux alentours. Et qu'on avait eu beaucoup de chance et que du coup, il fallait que ça nous serve de leçon pour la suite et qu'on apprenne des choses de cette mésaventure. Et clairement, ça a été le cas. Maintenant, on fait très attention et on a des meilleurs réflexes.
J'imagine, effectivement, tu te dis, je vais finir sur une île ou dans l'eau. Je pense que derrière, ça te fait cogiter et tu t'adaptes mieux aux situations, ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Au bout de 3-4 mois de voyage, je pense que t'es un peu... T'es pas rassurée quand même, mais...
Non.
Bon. Après, ça fait des bonnes anecdotes à raconter. Hein.
Ça fait des bonnes anecdotes, ça fait une bonne vidéo aussi, parce que j'avais essayé de filmer. Alors au début, j'étais tellement en panique que je filmais rien du tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça peut être intéressant de filmer pour justement montrer qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et que des fois, tu te retrouves dans la sauce comme ça, parce que t'as pris des mauvaises décisions. Et quand je regarde les images de cette vidéo, je me replonge dans tous ces sentiments et dans ce flip que j'avais à ce moment-là. Donc c'est pas mal.
Ouais, j'imagine. Bon, on vous mettra, chers auditeurs, la barre avec le lien pour aller voir cette vidéo spécifiquement. tout à l'heure, tu nous as parlé de l'Angola. J'aimerais bien revenir sur ce pays parce que je ne connais pas du tout. Et je pense que je ne suis pas la seule à me dire déjà où ça se situe. Est-ce que tu peux nous... Alors là, on était tout en haut, on va plutôt en bas. Et c'est les dernières semaines finalement que tu as passé là. C'est récent pour toi ?
Ouais, c'est vraiment récent. Alors l'Angola, ça se trouve en Afrique australe. L'Afrique australe, c'est vraiment la partie sud du continent africain. Là où il y a quand même des pays assez gros en termes de superficie par rapport à l'Afrique de l'Ouest où c'est pas mal de petits pays. Donc il y en a beaucoup, mais en plus, sur une plus petite superficie. Là, on a l'Angola, juste en dessous, il y a la Namibie. Et en dernier, il y a l'Afrique du Sud, qui est vraiment le point le plus au sud du continent. Donc voilà, ça se trouve sur la côte sud-ouest du continent africain. Et en effet, c'était dans les derniers pays qu'on a fait là à l'instant T, où on a laissé le 4x4 en Namibie pour la fin de cette deuxième année de voyage. Donc l'Angola, c'était juste avant et on y a passé un mois, parce qu'on avait un mois de visa. On aurait pu faire des démarches pour le prolonger, mais on avait déjà notre billet retour depuis la Namibie pour rentrer en France cet été. Donc on a quand même bien pu profiter pendant un mois.
Et alors, ça ressemble à quoi, l'Angola ? C'est quoi les paysages ? C'est parce que forcément, comme tu disais au tout début de notre échange, c'est qu'on imagine l'Afrique, bon bah voilà, c'est désertique, c'est de la piste et basta. Alors, c'est quoi ? Si tu nous projettes, là, si on met un petit masque de réalité virtuelle, c'est comment ?
Bah, l'Angola, en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que c'est très diversifié parce que c'est un immense pays. Je crois que la côte, elle fait, je dirais, dans les 1500 km faciles en longueur. Enfin, c'est vraiment très, très grand.
Ah oui.
Et en fait, dans tout le nord, c'est plus un petit peu équatorial. Il y a des grandes forêts, des grands arbres. C'est encore assez, assez dense et il y a beaucoup de verdure. C'est là aussi où il y a le plus de pluie par rapport à l'Afrique centrale qui est proche, le Congo et le Gabon. Donc il y a un microclimat dans le nord qui fait que c'est très très vert. Et puis plus on descend dans le sud, plus on va pour le coup vers le côté désertique. Donc nous, on n'avait pas revu de désert depuis la Mauritanie, donc depuis quasiment 20 000 km. Donc c'est pour dire que là, je reparle de désert, mais on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Et dans le sud de l'Angola, ouais, y a un grand, grand désert qui fait partie du désert du Namib, donc le plus vieux désert du monde qui est principalement connu pour le côté Namibie, mais qui a une partie côté Angola aussi. Et donc là, c'est des immenses dunes à perte de vue. Et ce qui est particulier, c'est que ces dunes, elles se jettent dans l'océan. Donc il y a vraiment un moment donné où t'as cette image d'une dune de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et puis t'as un mini banc de sable qui va et vient selon les marées. Et puis après t'as l'océan. Donc c'est totalement fou. On a plus l'image du désert, par exemple, marocain ou algérien, où c'est des dunes sèches qui sont à l'intérieur des terres. Et là, non, c'est des dunes qui sont très humides. Qui sont juste à côté de l'eau et du coup c'est totalement fou. Et le reste du pays il est aussi très diversifié. Tu vas avoir des endroits, bah, comme je disais tout à l'heure, avec des immenses cailloux. Tu te demandes ce qu'ils font là, parce que genre c'est tout plat autour et puis tout d'un coup t'as ces grandes formations rocheuses dans lesquelles tu peux serpenter un petit peu et tu te dis qu'il y a eu beaucoup de choses volcaniques ou autres qui ont façonné le paysage angolais et qui font que, franchement, le pays est à couper le souffle. Tu vas avoir des cascades, des fleuves. En fait, t'as un peu tout dans le même pays.
Ah ouais, donc on n'imagine pas du tout ça. Déjà, rien que le côté vert que tu nous décris là au tout début dans le nord, ça, ça, je pense que je ne suis pas la seule à me dire waouh, je pensais pas que c'était comme ça. Et donc, ça veut dire qu'en un mois, vous avez quand même pu traverser le pays. Vous l'avez traversé du nord au sud.
Ouais.
Vous êtes allé sur la côte.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des coins que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas eu le temps de faire ? Parce que vu que c'est très grand, est-ce que vous avez eu le temps de
faire ? Ouais, c'est immense comme pays. Et en un mois. Alors, on a pris notre temps, mais en même temps, on a essayé quand même de pas mal rouler vu les grandes distances qu'il y avait. On a fait vraiment plus... en gros, si tu coupes l'Angola en deux, nous, on a fait la partie ouest du nord au sud. Okay. Mais on aurait pu passer un mois de plus pour faire la partie est du nord au sud. Donc, c'est vraiment immense comme pays.
D'accord, et vous comptez y retourner ou pas? Est-ce que c'est un projet de se dire, bah, je retourne dans certains pays que j'ai bien aimés en me disant, bah, voilà, je vais faire les parties, les régions que je n'ai pas encore découvertes ou...
Là, non, ce n'est pas un projet. Là, on va plutôt se focaliser sur la suite qui va être Botswana, Namibie. On va essayer de prendre maximum le temps. Après, le but, ce n'est pas de sillonner vraiment 100% des pays... de chaque pays qu'on fait, voilà, il y en a certains, on va se focaliser sur une certaine région, sur un certain côté, parce que, alors, non pas qu'on veut pas, en soi, c'est très très intéressant de découvrir chaque pays à fond, mais si tu veux vraiment faire 100% chaque pays, tu mets 10 ans. Ouais, tu mets 10 ans pour faire l'Afrique. Déjà que nous, on prend notre temps et on est assez lente. Je sais qu'il y a d'autres voyageurs, ils font que tracer le continent. En 6 mois, ils passent du Maroc en Afrique du Sud. Nous on prend déjà quand même beaucoup de notre temps, mais alors si on le prenait encore plus, on s'en sortirait jamais, parce que bon, le but c'est aussi de découvrir autre chose, d'être un petit peu happé par différentes cultures ou différents paysages à découvrir, donc la diversité est aussi intéressante.
Et tu parlais de la Namibie. La Namibie, pour moi, c'est un petit peu le côté safari, voilà, les animaux. Est-ce que là, pendant le voyage, vous êtes retrouvé dans un bivouac, dans un spot, en se disant, bah, on va tomber sur des animaux, et justement, vous avez fait des rencontres avec des animaux comme ça, par pur hasard, vraiment?
Alors, la Namibie, pour le coup, on y a passé même pas une semaine pour le moment, parce que le but, c'était de tracer rapidement vers la capitale pour laisser le 4x4 en sûreté dans un garage. Donc, on va prendre le temps d'y passer au moins un mois et demi, voire 2 mois, là, quand on y retourne à l'automne. Mais on a eu le temps de passer quand même par le parc le plus connu qui s'appelle Etosha, où on a pu croiser tellement, tellement d'animaux. Alors ça reste un parc, donc tu sais que tu vas croiser des animaux, et il est totalement interdit de sortir de ta voiture quand tu es proche des animaux. T'as le droit seulement de sortir de ta voiture quand tu es dans les campings ou dans les lodges agrémentés par le parc. Donc là, c'est pas voilà, tu tombes pas vraiment.
Oui, c'est quand même encadré.
Ouais, c'est très encadré. Mais par contre, je sais que pendant les 2 mois qu'on va y passer à l'automne, on va sûrement avoir ce genre de rencontre, parce que les autres voyageurs qu'on connaît qui sont passés par là nous ont raconté, voilà, des fois tu te poses à un endroit et puis tu vas avoir un éléphant ou une girafe qui passe pas très loin. Et c'est des situations assez folles. Par contre, un truc justement qui est un petit peu dommage sur le continent africain ces dernières années, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'animaux sauvages à cause du braconnage principalement, à cause aussi de l'ancienne période de colonisation où clairement ils faisaient pas attention aux animaux, enfin ils s'en foutaient, les animaux c'était pour la viande, vraiment pour la chasse, pour les défenses, pour autres. Et du coup il y a certains pays où il y a encore quelques décennies il y avait beaucoup d'animaux, je pense notamment à la Côte d'Ivoire, qui s'appelle la Côte d'Ivoire parce que bah, justement c'était un pays où il y avait plein d'éléphants. Et là, si tu vas en Côte d'Ivoire, ben, je pense que les éléphants, tu peux presque les compter sur les doigts d'une main. Ils sont plus là, malheureusement. Et dans d'autres pays, c'est un petit peu la même chose. Donc, y a certaines personnes qui pensent qu'il y a les animaux de la savane dans tous les pays d'Afrique. Mais non, oui. Non, on les a vus vraiment pour la première fois en arrivant en Namibie.
D'accord, oui.
Ouais. Alors, il y a deux endroits où on aurait pu les voir. Dans le nord du Ghana, il y a encore quelques éléphants. Il y a un parc où nous, on n'a pas eu le temps d'aller, mais donc c'est possible. Il y a aussi dans le nord du Bénin, où il y a des parcs avec pas mal d'animaux, mais malheureusement, en ce moment, la situation est trop dangereuse parce que c'est proche de la frontière avec des pays un petit peu en tension, donc les parcs sont fermés. Donc ça aussi, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, il y a quelques petits endroits où on peut voir des animaux, mais c'est pas en mode partout où on va, on peut croiser des éléphants, des lions, quoi que ce soit. Là, ça va être un petit peu plus le cas en arrivant en Afrique australe, en Afrique de l'Est aussi, où c'est plus connu, par exemple au Botswana, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, où il y a beaucoup plus de populations d'animaux, donc ça va être chouette d'enfin pouvoir en voir un petit peu plus.
Oui, effectivement, j'imagine, parce que c'est vrai que les parcs nationaux, on se dit, enfin, ou les parcs, on se dit, bon, bah, on y va pour ça aussi, j'imagine.
Ouais.
Mais donc, vous n'êtes pas tombé nez à nez avec un lion, avec un éléphant, comme
Non,
ça, au
pas
détour
encore.
d'un spot, pas encore. Bon.
Pas encore. Peut-être au Botswana, parce qu'au Botswana, apparemment, il y en a beaucoup, donc peut-être. On verra ça d'ici quelques semaines.
Bon, bah, j'ai hâte que tu nous racontes la suite de tes aventures. Olivia, on arrive presque à 1 heure d'enregistrement. Et j'ai envie de te poser les deux dernières questions.
Ouais.
La première question, c'est si je te donnais les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un moment de ton voyage dont tu ne nous as pas encore parlé, ce serait lequel ? Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais un seul moment.
Un seul moment à revivre. Ouais, c'est compliqué, j'avoue.
Ouais.
je crois que j'aimerais beaucoup revivre les tout premiers jours. Du voyage, parce qu'il y avait cette excitation, alors que j'ai toujours, mais c'était vraiment l'excitation de l'inconnu. On savait absolument pas où on allait, ce qu'on allait faire, et en même temps on était dans le rush, on venait à peine de quitter nos familles, donc c'était un mix d'émotions, on n'avait pas terminé totalement l'aménagement du 4x4, donc on avait jeté les derniers trucs à l'intérieur pour les faire sur place, et on connaissait pas non plus la mécanique. En plus, à peine arrivé, on a vu des petits soucis de batterie. Je crois que c'était le deuxième ou troisième matin, on était avec la batterie moteur totalement vide parce qu'on avait mal fait des branchements, des trucs qui avaient vidé la batterie pendant la nuit.
Le deuxième matin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. D'accord. C'était juste genre, vas-y, bienvenue. Et je me rappelle du coup de tout ce mix d'émotions, de... Un petit peu, alors pas de peur, parce que moi j'ai jamais eu peur de me lancer dans ce voyage, mais un petit peu d'appréhension, et puis en même temps on était tellement excités, et puis c'était la finalité de plusieurs mois d'aménagement du 4x4, donc c'était incroyable de enfin avoir notre petite maison roulante, donc j'aimerais bien revivre ces moments-là. Mais ce qui est super chouette, c'est le fait d'avoir tout filmé. Bah, en fait, si je veux vraiment revivre un peu ça, il suffit que je regarde mes premiers épisodes. Et comme j'avais filmé nos ressentis, j'avais filmé ces moments de galère, ça peut m'aider à me replonger là-dedans. C'est là où aussi le pouvoir de l'image, il est très intéressant.
Oui, complètement. Et puis le fait que tu repartes aussi, tu rentres en France de temps en temps, tu as un rythme aussi. Donc malgré tout, il y a quand même des départs réguliers, alors des retours aussi, mais des départs réguliers. Est-ce que ça te fait ça à chaque fois ? Est-ce que tu as cette même excitation du premier départ ? Ou ouais. Est-ce que tu t'habitues un petit peu ?
Bon, alors je m'habitue peut-être un petit peu, c'est pas exactement la même excitation que le tout premier départ, mais il n'empêche que ouais, je retrouve cette ébullition de me dire vas-y, on va repartir, on va retrouver le 4x4, ça fait plusieurs semaines qu'on l'a quitté, et en fait c'est aussi le pourquoi on voulait avoir un rythme avec des petites pauses. C'est parce que quand tu t'habitues un petit peu trop sur le long terme à certaines choses, tu te rends plus forcément compte de la beauté, de la simplicité de la chose et de justement toutes ces émotions qui peuvent venir en toi. Et je sais qu'au bout de 8-9 mois de voyage, comme je disais au début, on peut être fatigué, on peut en avoir un petit peu marre aussi, on a envie d'un peu de stabilité, d'une douche chaude, d'un lit qui ne bouge pas, certaines choses. Et en fait... On repasse à un confort un peu plus sédentaire. Et ensuite, quand on revient à ce mode de vie sur les routes, on est trop contente d'y retourner, alors qu'on n'aurait pas eu ce même sentiment si on n'avait pas eu la pause au milieu. Donc c'est aussi pour ça que pour nous, rentrer en France, c'est très important. C'est que ça nous fait aussi relativiser par rapport à tout ce qu'on fait, prendre un petit peu de recul et se dire bah, « Trop bien, on est reboosté à fond. » Et puis c'est reparti pour quelques mois sur les routes.
Ouais, vous avez vraiment deux modes de vie, finalement. C'est les
totalement
deux,
opposés, ouais.
Ouais, c'est incroyable. Et si tu devais résumer le voyage, bon, il n'est pas terminé, bien sûr, mais pour l'instant, si tu devais résumer votre voyage en une citation, une punchline, une phrase de ta propre création, ce serait quoi ? Pas facile non plus, je sais.
Bon, non, pas facile du tout. Alors je saurais peut-être pas forcément construire une punchline là d'un coup, mais en gros, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que pour moi ce voyage, le mot qu'il résume, c'est les rencontres. C'est vraiment oser être curieux et aller parler aux gens, parce que tu te rends compte que quand tu fais un voyage juste pour découvrir des paysages et être un petit peu dans ta bulle, par rapport à un voyage où tu vas aller voir des gens, découvrir ce qu'ils font, passer du temps avec eux, ben ça va pas du tout être le même ressenti. Et des fois, un pays, tu vas le trouver incroyable, non pas pour ses paysages, mais pour ses gens, pour la population locale, pour ce qu'ils ont partagé avec toi, pour leur accueil. Et il y en a d'autres, ce sera pour les super beaux paysages. Donc je trouve que cet équilibre-là, il est important et qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit qui est, je pense, fondamentale quand on part en voyage. Il faut être curieux des autres et se rendre compte que, en fait, dans notre monde, ce qui est beau, c'est qu'on a des sociétés, mais totalement aux opposés, que ce soit au nord du monde, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a tellement, tellement de diversité. Et en fait, il faut juste avoir envie de découvrir l'ailleurs, là où c'est un peu bateau, mais quand on sort de notre zone de confort, ce que nous, on connaît, là où on se sent un petit peu à l'aise, eh ben, il faut avoir l'envie de sortir de ça pour découvrir aussi comment d'autres vivent sur la même planète que nous.
Très très bien résumé, un très bon mot de la fin, et je pense que vous le faites très bien là, tu le fais très bien dans le voyage, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui drive aussi tout le fil conducteur de ton voyage, c'est un petit peu ça, ouais. c'est les rencontres. Donc on mettra aussi dans la barre de description le lien des épisodes de certains portraits dont tu nous as parlé, ouais. comme ça chers auditeurs, vous pourrez aller voir.
Trop bien.
Bah écoute, un grand, grand, grand merci, Olivia, pour ton partage. J'espère que ça a donné envie à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés, celles et ceux qui nous ont écoutés, de découvrir l'Afrique et certains pays, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais tu l'as dit, il y a une cinquantaine de pays en Afrique. Donc, j'espère que ça a donné l'envie à certaines personnes d'aller bivouaquer là-bas. Et si on veut continuer à suivre tes aventures, tu nous conseilles quelle plateforme en particulier ?
Sur YouTube, c'est là où je poste vraiment mes vidéos, mes petits reportages. Et puis sur Instagram, c'est plus des stories au quotidien, un peu les backstage, des photos. Donc c'est principalement sur ces deux plateformes que ça peut être intéressant de suivre l'aventure.
Ça marche. Et ben, on mettra tout ça dans le lien. Merci beaucoup, Olivia.
Merci à toi.
Profite à fond des prochaines semaines qui arrivent et j'ai hâte de découvrir la suite de ton voyage.
Trop bien. Merci beaucoup.